franceinter.fr.
L'image tremble un peu, parfois, tantôt verticale, tantôt horizontale. On ne voit pas toujours très bien sur le petit écran d'un smartphone. Les réseaux sociaux, toujours dans leur logique d'innovation permanente, permettent désormais de diffuser en direct des vidéos. Twitter avec Periscope, Facebook avec Facebook Live. Le principe, diffuser des images sans filtre, telles qu'on les a sous les yeux. Sans filtre, entendez surtout par là, sans passer par un média traditionnel, en l'occurrence cette bonne vieille télé. On y voit donc de tout et n'importe quoi, des bébés, des ados en mal de défi, beaucoup de sports retransmis sans payer les droits. On y lit aussi n'importe quoi, puisque chacun est libre de commenter les images qu'il a sous les yeux. LOL, troll, le meilleur à voir, y côtoie aussi le pire. Facebook Live, c'est notamment l'application que le tueur de Magnanville a utilisée pour commenter son acte. Il y a eu l'ère du tout info, nous entrons peut-être dans l'ère du tout vidéo. Les réseaux sociaux sont-ils en train de changer notre rapport à l'image? C'est là notre menu aujourd'hui.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et avec quatre invités pour répondre à cette question, ou ces questions, parce qu'il y en a plusieurs. Rémi Buisine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vous-même périscopeur. Les auditeurs de France Inter vous connaissent certainement, puisque vous avez utilisé Periscope à l'occasion de Nuit Debout. On en reparlera évidemment. Thierry Valla, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris et spécialiste donc du droit numérique. En duplex avec nous, Michael Stora, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Et Tristan Manès-France qui est avec nous au téléphone, enseignant en CELSA. Bonjour Tristan Manès-France.
Bonjour à tous.
Enseignant et donc spécialiste des nouveaux usages du numérique. Merci à tous les trois d'être là, à tous les quatre d'être là avec nous en direct. Mais avant de commencer ce débat, et comme tous les mercredis, nous restons sur les internets, donc avec le Huffington Post. C'est avec tous les jours un journaliste vient nous raconter ce qu'on peut lire dans son journal. C'est vous aujourd'hui, Alexandre Boudet.
Bonjour.
Bonjour, journaliste au Huff. Et cette question, le Conseil des ministres se termine aujourd'hui, il a dû d'ailleurs se terminer à l'heure qu'il est maintenant, midi 7. Cette question, où partent les ministres en vacances, est une question qui est loin d'être anodine, Alexandre Boudet.
Loin d'être anodine, oui, parce que c'est comme si le mot de vacances était tabou, alors particulièrement cette année dans le contexte sécuritaire que l'on connaît, mais presque, j'ai envie de dire, depuis le début du quinquennat de François Hollande, parce qu'en 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, le président normal avait voulu prendre des vacances, comme tout le monde. On l'avait accompagné avec les caméras sur le quai de la gare de Lyon pour aller au fort de Brégançon, et ça avait été catastrophique pour l'image du président de la République. Mmh.
Des photos en short.
Photos en short à la rencontre des badauds. Il avait dégringolé dans l'opinion parce que les vacances du président étaient assimilées à la vacance du pouvoir et c'était catastrophique. Depuis, il a donné un mot d'ordre, c'est on reste branché 24 heures sur 24, disponible s'il le faut, et du coup, on part pas en vacances très loin.
Et oui, interdiction de quitter la France.
Alors, interdiction ou presque, il y en a deux qui ont obtenu une petite dérogation. Il y a Myriam El Khomri qui, après un passage en Gironde, ira faire un tour en Italie, et Mathias Fekel qui partira quelques jours en Espagne. Mais sinon, oui, c'est la côte atlantique, un petit peu la côte d'Azur, et une dérogation à partir un peu plus loin pour les ministres qui viennent des Outre-mer, mais ça c'est normal.
De toute façon, il y a un point régulier prévu avec les ministres concernés par le terrorisme toutes les semaines.
Exactement, il y a 3 ou 4 ministres qui, eux, devront faire des allers-retours réguliers avec Paris pour faire des conseils de défense. Il y a Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, Bernard Cazeneuve, celui de l'Intérieur, Jean-Marc Ayrault, le ministre des Affaires étrangères, et bien sûr Manuel Valls qui devra interrompre son séjour dans les Alpes pour rentrer au moins une fois par semaine à Paris, et chaque jour ils seront au téléphone avec François Hollande, c'est ce que l'entourage du président laisse entendre.
Alors vous proposez une petite carte interactive sur le site du Huffington Post sur laquelle on peut cliquer, et est-ce qu'on peut remarquer tout de suite, en tout cas ce qui saute aux yeux, c'est quand même l'intérêt pour une île, l'une des îles les plus éloignées d'ailleurs du continent, si on accepte la Corse, c'est l'île Dieu.
L'île Dieu, oui, au large de la Vendée, qui attire pas moins de 5 ministres cette année. Alors il y a l'habitué Michel Sapin, qui a une maison depuis 25 ans là-bas.
Qui pêche.
Et qui pêche, voilà, qui pêche le bar, généralement, tôt le matin, tard le soir, pour être tranquille. Il y a Jean-Vincent Placé aussi, qui est amateur de pêche au bar, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2014, en 2013, il avait posté une image sur les réseaux sociaux avec son bar qui avait affolé Twitter. Et donc, ils seront rejoints normalement cette année par Laurence Rossignol, Marisol Touraine et Thierry Mandon pour peut-être un pré-conseil des ministres de rentrée.
D'autres conseils des ministres décalés et à l'île-dieu. Eh bien, merci Alexandre Boudet de nous avoir raconté et parlé de cette question, encore une fois, qui est loin d'être anodine sur les vacances de nos ministres. Un article à retrouver dans le Huffington Post d'aujourd'hui, mercredi 3 août. De l'info instantanée à la vidéo instantanée, Periscope, Facebook Live, les réseaux sociaux qui permettent de diffuser de la vidéo en direct, changent-ils nos rapports aux images? On attend vos réactions les réseaux sociaux, hashtag le débat de midi sur franceinter.fr. J'en profite pour vous dire que cette émission est donc sur Periscope, diffusée en direct, petite mise en abîme. Vous êtes bien sur France Inter, il est midi 11, c'est donc le débat de midi, et c'est aussi avec Mickey 3D.
Regarde un peu les survivants, ils ont des larmes au fond des dents, ils voudraient changer d'autoroute, mais c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Ne fais plus confiance à personne, c'est la devise des naufragés. Y'a toujours un con qui klaxonne pour qu'on continue d'avancer. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense. À s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Regarde un peu vers l'horizon, c'est la nouvelle génération qui n'a pas connu l'oppression, mais lève le bras pour la nation. Regarde un peu la gueule des morts, on dirait Pépé qui s'endort. Après les prochaines élections, faudra peut-être s'enfuir en avion. Si tu m'emmènes à Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. Mais si tu m'emmènes à Pyongyang, j'ai bien peur d'avaler ma langue. Si tu m'emmènes à Hollywood, j'irai moonwalker dans la foule. Mais si tu m'emmènes à Cuba, j'irai danser le cha-cha-cha. C'est beau la vie quand on y pense, un peu moins quand on la dépense. À s'énerver toute la journée, on finit par tout oublier. N'ayons plus peur de l'essentiel, n'oublions pas d'être fidèles à ceux qui nous montrent le ciel pour voler nos âmes. Tu m'emmènes à Tokyo, je prendrai sûrement quelques photos. Mais si tu m'emmènes à Pyongyang, j'ai bien peur d'avaler ma langue. Si tu m'emmènes à Hollywood, j'irai me moquer dans la foule. Mais si tu m'emmènes à Cuba, j'irai danser le cha-cha-cha.
Michael Furnon alias Mickey 3D, ce titre c'est beau la vie, c'est aussi le titre de l'album sorti en avril dernier.
France Inter, le débat de midi.
On s'interroge aujourd'hui sur ces applications et leurs utilisations, ces applications que sont Periscope ou Facebook Live, que vous connaissez peut-être, qui permettent de diffuser des vidéos depuis n'importe quel smartphone. Je vous informe d'ailleurs, je le dis et je le redis, que en ce moment même, au moment où je vous parle, cette émission est diffusée sur Periscope. Quatre invités pour en parler: Thierry Vallat, qui est avocat au barreau de Paris, spécialiste du droit numérique, Michael Stora, qui est psychologue, fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, Tristan Mendès-France, enseignant au CELSA et spécialiste des nouveaux usages numériques, qui est avec nous au téléphone, et Rémi Buisine, périscopeur, on peut dire ça comme ça. Vous êtes périscopeur, Rémi Buisine? Le mot n'existe pas encore.
C'est un nouveau terme, un peu comme youtubeur, maintenant on l'a transféré pour dire périscopeur, oui, on va dire ça.
Alors les auditeurs de France Inter, et d'ailleurs la France, vous connaît parce que vous avez été l'un des premiers à contribuer à populariser, disons, ce périscope. Vous l'avez utilisé pendant les Nuits Debout. Nuits Debout, c'était assez difficile l'approche quand on était un média traditionnel. Les journalistes cassaient souvent les dents, pas que les journalistes d'ailleurs, on se souvient de philosophes qui ont été éconduits. Et vous, vous avez pu filmer sans problème. Pourquoi ?
Déjà, en étant monsieur tout le monde, le fait de pas forcément être lié à un média aussi, et le fait que ce soit un outil qui soit sans filtre en direct. C'est-à-dire que beaucoup de militants, de membres de Nuit Debout, reprochaient souvent aux médias de dire, bah voilà, vous allez m'interviewer pendant 2-3 minutes, qu'est-ce que vous allez passer à l'antenne, comment vous allez enrober mon propos, et dans quel sujet ça va être diffusé. Alors que là, sur Periscope, entre guillemets, il n'y a pas de triche, on est en live, l'interview est retransmise telle quelle, sans montage, sans rien, c'est ce qui plaisait beaucoup sur le terrain.
Mais du coup, sans analyse, sans recul, sans distance, quand oui, on dit sans filtre, c'est quoi ce fameux sans filtre?
Le fameux sans filtre, c'est qu'on est en direct, comme une chaîne d'infos en continu, on retransmet les événements. Donc bien sûr, on essaie de prendre du recul parfois quand les événements assez graves. Là par exemple, quand c'est Nuit Debout, on a le temps de se poser, de prendre un peu de recul sur ce qui se passe, de discuter avec les gens. Par contre, quand c'est des news un peu plus chaudes, je pense notamment aux attentats du 13 novembre que j'avais aussi couvert sur Periscope, c'est important aussi de prendre un peu de recul en direct et d'avoir une certaine déontologie dans ce qu'on filme et dans ce qu'on filme pas, parce qu'on est en direct. Et c'est ça qui est important.
Mais vous considérez comme journaliste ?
Une approche journalistique. Je suis pas journaliste, j'ai pas la formation ni le statut aujourd'hui, mais mon approche sur le terrain, c'est-à-dire que quand moi je vais avec mon téléphone pour filmer, c'est la même que l'un de vos journalistes qui reste sur le terrain pour faire un reportage. C'est la même chose, la même démarche.
Tristan Mendès-France, vous êtes enseignant en CELSA et spécialiste des nouveaux usages numériques. Rémi Buisine vient de citer le Tout Info, les chaînes d'info. Est-ce que les événements récents jouent pour Periscope ou Facebook Live le même rôle que finalement la guerre du Golfe en 91, qui avait été l'explosion de la chaîne d'information continue américaine CNN?
Oui, il y a pas mal d'événements qui eux-mêmes sont aujourd'hui diffusés exclusivement sur les plateformes de type Periscope. Je pense notamment au coup d'État en Turquie récemment, le 15 juillet dernier, qui a été couvert au tout début uniquement par des citoyens normaux, quelconques, comme vous et moi, et qui étaient simplement sur place et qui émettaient donc ces flux de vidéos en streaming. Donc il y a beaucoup d'accidents, de drames internationaux ou de moments assez tendus au niveau international où seuls les citoyens sont là d'abord. Les citoyens sont présents avant même les journaux et les journalistes spécialisés.
Mais est-ce qu'il n'y a pas une survalorisation de cet usage de Periscope? Je me souviens qu'au moment du printemps arabe, par exemple, on disait exactement la même chose. C'était à propos de Twitter, il n'y avait pas des images, mais il y avait des citoyens qui tweetaient.
Oui, il faut faire un petit peu attention. Periscope n'a pas participé au coup d'État en Turquie, par exemple. Il a simplement
été relayé.
Oui, c'est ça, il a été simplement relayé. On a pu dire des fois que Twitter avait aidé à certaines révolutions, il faut faire un petit peu attention à ça. Il y participe, en tout cas il relaye, il permet de donner à voir certaines choses qui s'y passent. Il faut faire aussi un petit peu attention à l'idée que c'est objectif, tout ça est assez subjectif. Chaque émetteur, évidemment, choisit ce qu'il va filmer, les interlocuteurs, les angles, il est à un endroit et pas à tous les endroits à la fois. Donc c'est en fait une multiplicité de petites subjectivités, mais qui sont fascinantes et qui sont un objet absolument fascinant et absolument essentiel pour les journalistes, que je forme d'ailleurs au CELSA. Je forme les jeunes journalistes ou les futurs journalistes à savoir récupérer des informations sur Periscope quand il peut y en avoir des intéressantes à exploiter.
Michael Stora, vous êtes donc le fondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. À l'instant, Tristan Mendès-France évoquait la multiplicité des points de vue et surtout le fait que finalement, il y a beau ne pas y avoir de filtre, en tout cas c'est ce que prétendent les utilisateurs de Periscope, au fond il y en a quand même un, c'est d'abord soi-même.
celui qui filme.
Mais oui, oui, nous sommes d'accord sur l'idée que toute personne qui émet ou filme quelque chose le fait à travers sa propre subjectivité. D'ailleurs, c'est peut-être même une question qu'on peut se poser d'une manière générale sur la question du journaliste, puisque d'ailleurs, à l'époque, lorsqu'on évoquait les journalistes blogueurs, où au fond, le blogueur identifiait qui il était, son histoire, et finalement, il expliquait son filtre. Donc, j'ai envie de dire qu'étonnamment, ce filtre a aussi un intérêt presque journalistique, puisqu'il nous donne un point de vue. En même temps, il y a juste une petite chose qui m'a intéressé sur le terme de périscopeur. Sans être dans une diabolisation, il y a le mot peur. Et finalement, c'est
une approche très lacanienne.
Oui, j'avoue que j'étais un petit peu lacanien sur le coup, mais finalement, il y a quand même cette idée d'une absence de filtre qui est plutôt celle de la question d'une sorte d'éthique, de déontologie, voire pour certains de morale. C'est peut-être là où se situe un des vrais questionnements sur ce type d'application directe.
Qu'est-ce que Periscope finalement pourrait apporter qu'un média classique n'apporterait pas à Thierry Valla ?
Il apporte l'instantanéité, c'est clair. Il est là quand les médias n'ont pas peut-être aussi eu le temps d'intervenir. On l'a vu sur certains événements où les gens qui étaient sur place ont périscopé et voilà, ensuite sur les médias traditionnels qui ont pris la relève. Non, c'est un média qui est vraiment utilisable par tout le monde en périscopant. On est réalisateur, diffuseur, acteur. On cumule tout. C'est vraiment la liberté d'expression qui est à l'œuvre. Je trouve que c'est un média qui est tout à fait intéressant et d'où les dangers aussi qu'une mauvaise utilisation de périscope peut bien évidemment générer. Mais grosso modo, c'est une application absolument incroyable, et d'où son succès, parce qu'en très peu de temps, hein, elle est très récente, hein, mars 2015, voilà, donc c'est vraiment tout, hein, 15 mois, 16 mois, donc on a...
C'est déjà l'application élue meilleure application de l'année 2015 par Apple.
Voilà, juste ce titre à mon avis, tout le monde peut l'utiliser, après il faut le faire à bon escient.
Tout le monde peut l'utiliser, et quand vous dites tout le monde, ça touche de plus en plus de monde. Twitter revendique 10 millions d'utilisateurs pour Periscope. Vous-même, Rémi Buzine, quand vous étiez sur la place de la République, Nuit Debout, vous avez eu 80 000 personnes qui vous suivaient en direct. 80 000 spectateurs, on peut appeler ça comme ça.
Ce qui est énorme, parce que le pic de 80 000 personnes en simultané ensemble, c'était à 23 heures, donc on peut imaginer que même certaines chaînes de la TNT, donc des médias traditionnels, ne faisaient pas la même audience. Alors en termes d'audience, il faut savoir que l'audience est arrivée en France grâce au fait Serge Aurier, qui avait fait énormément de buzz pour l'application, et c'est à ce moment-là où l'audience s'est développée en France.
Bien malgré lui. Il faut raconter l'histoire pour celles et ceux qui s'intéressent un peu moins au football et encore moins à ce type de football.
Serge Aurier avait insulté son entraîneur via l'application Periscope avec un de ses amis. La vidéo avait fait un buzz retentissant, repris par tous les médias parce qu'il insultait son entraîneur et il avait été sanctionné après par celui-ci. Ça fait partie justement des mauvaises utilisations, mais c'est ce qui a permis vraiment de démocratiser, de développer l'intérêt pour l'application en France parce qu'elle était peu connue. Moi, je l'ai vu, j'ai eu un avant et un après parce que je commençais déjà à retransmettre des éléments d'actualité avant justement l'affaire Aurier. Le 13 novembre par exemple, j'avais une très forte audience, mais une audience surtout étrangère. Et à partir de janvier, les Français ont commencé à investir l'application et aujourd'hui c'est devenu un outil très, très courant, très commun.
Est-ce que vous pouvez raconter pour celles et ceux qui ne l'utilisent pas à quoi ça ressemble ?
En fait, c'est une application lambda. Vous allumez votre téléphone, vous avez déjà une petite interface avec tous les périscopes qui sont les plus regardés. Vous avez une deuxième avec une carte du monde, par exemple, qui est très intéressant si vous voulez suivre un événement en particulier. Si on prend l'exemple du coup d'État en Turquie dont on parlait il y a quelques instants, eh bien on peut faire un zoom sur la Turquie et voir en temps réel par des petits points où il y a des diffusions, donc on peut vraiment aller trouver les vidéos. Pour diffuser, c'est très simple, vous avez un bouton pour diffuser, vous mettez votre titre, et hop, c'est parti, vous êtes en direct. C'est très simple, franchement, en une formation d'une petite demi-heure, vous pouvez devenir un adepte de Periscope.
Même en auto-formation, non?
Exactement.
Je vous retourne vers vous, Thierry Valla, mais ça pose aussi un problème du droit à l'image, c'est-à-dire qu'on peut filmer n'importe qui dans la rue, on n'a pas le droit de filmer les gens sans leur consentement a priori, il y a certaines façades de bâtiments qu'on ne peut pas non plus filmer, enfin, il y a une véritable question du droit à l'image aujourd'hui qui est très certainement tellement bafouée très régulièrement quand on utilise Periscope.
Il y a plein de questions qui se posent. En réalité, les premières digressions en fait de Periscope au niveau juridique viennent effectivement par le biais de violations de droit à l'image, de violations de la vie privée, ça peut être également de la diffamation, puisque avec les commentaires qui sont générés et liés à la diffusion, tout un chacun peut mettre très librement, voire quelquefois de manière très 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 libre, entre guillemets, de tout commentaire, donc ça pose ce problème-là, problème des droits d'auteur, de nombreuses difficultés sont liés à ça. Alors il faut également préciser que Periscope, vous pouvez avoir une utilisation très ouverte, très ouverte à tout public, mais vous pouvez également restreindre la diffusion pour un certain nombre de, appelons ça de followers, de gens de vos amis, et donc en restreignant cette diffusion, bien évidemment, plus la diffusion est restreinte et moins les violations et les atteintes au droit à l'image seront importantes. Qui serait éventuellement sanctionné. Mais on parlait de Serge Aurier tout à l'heure. Serge Aurier, d'ailleurs, s'était posé la question de savoir s'il n'allait pas demander un peu de sous à Periscope pour le buzz qu'il avait fait. Si la vidéo telle qu'au départ elle était prévue de rester entre amis, si elle ne fuitait pas, ça n'aurait pas posé de difficultés. Il était peut-être dans un environnement amical, mais c'était une conversation, on va dire, privée. Mmh. Le problème, c'est que des internautes ont capté, ont fait des captures, ont fait et donc cette vidéo s'est retrouvée
diffusée. Qui est responsable dans ces cas-là ?
Alors c'est une véritable difficulté de savoir sur quel média cette vidéo a été éditée. Si alors, depuis la loi de LCEN, donc la loi de la confiance numérique de 2004, nous avons une responsabilité restreinte de l'hébergeur. Donc c'est-à-dire que si un site va héberger uniquement le lien avec la vidéo accessible donc de Serge Aurier traitant son ex-entraîneur, puisque finalement paradoxalement c'est pas le joueur qui a été licencié, c'est l'entraîneur finalement qui est allé à la trappe.
Bon, c'est pour d'autres raisons.
Comprenne qui pourra, mais voilà, c'est pour des raisons footballistiques et là pas du tout le droit du travail. Donc effectivement, là on a une diffusion très très restreinte. Donc le diffuseur, si on lui intime l'ordre, parce que Paris Saint-Germain peut par exemple le dire, voilà, site www.com, vous allez enlever cette vidéo. Bon, si le site l'enlève, rien ne se passera. Si le site continue à le diffuser, à partir de là, la responsabilité de l'hébergeur deviendra une responsabilité d'éditeur, et donc là, il pourrait y avoir éventuellement des actions, on y reviendra tout à l'heure, avec les problèmes de streaming de matchs de football qu'on retrouve sur certains sites.
Sur franceinter.fr, ce message qui nous arrive: bonjour, je suis CPE en collège, nous nous retrouvons face à des familles qui ne transmettent pas les bonnes valeurs à leurs enfants, et lorsque on les appelle pour les prévenir que leurs enfants se sont servis de Periscope, ont mis des copains sur les réseaux, on s'entend dire, c'est bon, il n'a personne.
Alors, je voudrais pousser aussi un petit coup de gueule matinal, parce que...
Il est midi 28.
Voilà, donc, on va dire que Periscope, je suis encore allé ce matin, en préparant l'émission, sur le site internet français. Bon, vous savez que Periscope est une filiale, en fait, de Twitter.
Qui a un nom intéressant qui s'appelle periscope.tv. Ce qui dit bien ce que ça veut dire. On est quand même sur de l'image et de la télé.
Tout à fait. Et donc, lorsque vous allez sur la version française de Periscope, donc moi je m'amuse, alors j'ai des plaisirs un peu coupables, c'est d'aller voir les conditions générales d'utilisation des sites internet. Et donc, je suis allé sur les CGU de Periscope et elles sont en anglais. Alors, bon, tout le monde n'est pas forcément bilingue. Et le problème de Periscope, en réalité, c'est pas bien évidemment jamais l'application qui est en cause, c'est l'utilisation qu'on en fait. Si on avait déjà un certain nombre de garde-fous bien lisibles sur le site, attention, ne faites pas ci, ne faites pas ça, sans vouloir jouer le père la morale et faire de la censure a priori, il faudrait quand même... C'est un problème d'éducation en réalité, l'utilisation. On en revient là d'éthique et on en reparlera certainement tout à l'heure.
Michael Stora, vous êtes psychologue et fondateur de l'Observatoire des mondes numériques. Hein, sur ce mail, ce témoignage de CPE en collège qui conclut, il dit: nous sommes démunis face à la bêtise des gens avec Periscope et autres points de suspension.
Oui, j'aimerais juste évoquer une anecdote. Il m'est arrivé aussi de vouloir observer, c'était nécessaire. je me suis retrouvé à l'époque où nous étions à la fin de l'année scolaire, et vous savez, le mobile coincé dans la trousse, et un adolescent évoquant un désir d'un défi qui ferait de lui évidemment un héros à ce moment-là, en reprenant peut-être les ficelles du scoop traditionnel, et quelqu'un lui dit « bah vas-y, tape ton prof ». Il allait le faire, et au fond, c'est son camarade à côté qui le dit « calme-toi ». Mais c'est vrai que voilà, là, il faut quand même comprendre que la question du direct fait flamber aussi. C'est toute une problématique qui est que, si par exemple, lors de cette émission, alors ça reste radiophonique, mais l'un de nous, tout d'un coup, pète les plombs, évidemment que ça va créer du scoop. Donc, le direct engendre, quoi qu'il arrive, une dynamique qui peut être incroyablement violente. Je crois que c'est intéressant aussi de réfléchir sur la problématique du direct en tant que révélateur aussi de ce que certains peuvent faire pour exister à tout prix.
Mais pourtant, Périscope, c'était bien le lieu sans filtre, ou au contraire, on s'éloignait des médias traditionnels, et notamment de la télé, de la télé et des chaînes d'infos continues, qui, elles, cherchent le scoop, le buzz également.
Oui, bah écoutez, justement, franchement, on peut se poser des questions même d'éthique sur des chaînes dites d'infos en continu traditionnelles. On a bien vu les dérives qu'il y a pu avoir, et voire même n'avoir rien à dire et donc chercher à tout prix à créer du buzz. On va dire, on peut se demander à quel point les périscopeurs ne reprennent pas leur compte cette tendance, parfois, d'un ennui qui fait que lors de l'ennui, il faut à tout prix provoquer finalement du buzz. Et c'est vrai que certains, on peut imaginer collégiens, lycéens qui s'ennuient en classe vont utiliser Périscope comme un moyen de rompre cet ennui au prix de quelque chose qui peut être plutôt inquiétant.
Avec des dérives parfois très dramatiques, mais on se souvient évidemment du suicide en direct, qui était une première justement pour Périscope, ouais, d'une jeune fille en mai dernier qui était victime de harcèlement et qui a prévenu les gens qui la suivaient sur Périscope qu'elle allait se suicider qu'il a fait avec son téléphone à la main.
Oui, alors là c'est plus compliqué parce qu'après coup on s'est rendu compte qu'elle était dans une problématique psychiatrique un peu lourde, c'est-à-dire qu'on appelle la mélancolie, et les mélancoliques, comme vous le savez, ont besoin de mettre en scène leur suicide, d'autant plus relayé par les médias traditionnels, qui a fait que tout d'un coup cet acte est devenu véritablement un acte de libération. Mais c'est vrai que se repose une question éthique, et je crois que ça a été évoqué sur les responsabilités juridiques des réseaux sociaux, c'est-à-dire ils ont réussi à faire que celui qui publie le contenu est responsable. Mais néanmoins, un des fils qu'on peut se poser, c'est ne faudrait-il pas, comme d'ailleurs à l'époque à la télé-réalité, faire un vrai faux direct? Ça, c'est une vraie question qu'on pourrait se poser, avec un vrai service de modération, non pas simplement sur les bugs techniques, mais sur le contenu. Et c'est vrai que
vous voulez dire décalé, ne pas faire un direct, mais un direct qui serait décalé de quelques minutes pour éviter ces dérapages.
Complètement. Complètement, ça veut dire que même pour des choses, que ce soit des interviews, des colloques qui sont filmés universitaires, où est le problème qu'il y ait deux minutes de décalage? Mais ce qui est vrai, c'est que c'est surtout une problématique économique, puisque les grands réseaux sociaux ne veulent pas forcément, ou n'ont pas forcément les outils techniques, même si on peut y réfléchir, pour faire un vrai travail de modération, puisqu'ils jouent sur l'idée de modération entre pairs, ce qui est terriblement dangereux, puisque comme vous le voyez, les gens se poussent parfois au crime.
C'est vrai que ça pose à Tristan Mendès-France cette question de la modération. Marc Dorcel notamment avait filmé avec Périscope un tournage pendant plus de 20 minutes, alors que normalement, on imagine ce qu'est un tournage de Marc Dorcel, hein, les images pornographiques sont interdites sur Périscope, et pourtant pendant 20 minutes, il y a pu y avoir diffusion d'images pornographiques. Est-ce que ça fonctionne, cette modération, selon vous, Tristan Mendès-France?
Alors, le filtrage est un point crucial des problèmes liés à toutes les plateformes de streaming aujourd'hui. Le direct est l'une des choses les plus difficiles à couper, tout simplement parce qu'il manque de mains, que les algorithmes qui permettraient de faire remonter certaines vidéos sont encore pour l'instant très imparfaits. Donc le problème essentiel aujourd'hui, c'est justement le filtrage des séquences filmées en direct. Je rappelle tout simplement que tous les criminels, mais également les terroristes, évidemment, commencent maintenant à privilégier ce mode de diffusion, parce qu'encore une fois, il est très difficile à arrêter.
C'est ce qu'a utilisé notamment le tueur de Magnanville.
absolument à Magnanville, qui avait utilisé pour le coup Facebook Live pour délivrer sa petite séquence vidéo à un auditoire assez restreint au départ, mais c'est pas vraiment le problème. Il a utilisé ce dispositif-là parce qu'encore une fois, il est extrêmement difficile d'intervenir suffisamment rapidement dans ces cas-là. Mais vous parliez Marc Dorcel, mais je pense que les pervers du monde, les exhibitionnistes de la planète vont trouver là un terrain de jeu extraordinaire qui pose des problèmes juridiques infinis. Là, je pense que les avocats vont avoir des dossiers pendant encore pas mal d'années. Encore une fois, parce que les législations peuvent être étrangères, on peut voir un stream diffusé des États-Unis, mais on peut le voir en France et inversement. Enfin bref, tout ça est un énorme fatras juridique. Reste le problème essentiel du filtrage, qui encore une fois, moi, m'inquiète. Je m'inquiétais déjà il y a un an du fait que des terroristes ou des criminels utilisent ces plateformes-là. C'est déjà malheureusement le cas. Bon, il ne faut pas réduire ces plateformes-là à ces cas
qui sont
marginaux.
Sur les 10 millions d'utilisateurs, ça reste évidemment très, très, très marginal.
Oui, ça reste très marginal, mais comme toute chose, la séquence de Daesh qui a été filmée à Magnanville, bon, a eu une audience internationale, même si le phénomène était marginal en lui-même. Donc le grand problème aujourd'hui, c'est le filtrage. Je pense pas qu'il y ait de solution pour l'instant. Des grandes plateformes comme Facebook, qui a plus d'un milliard, 1,5 milliard d'utilisateurs, peut avoir en gros potentiellement aujourd'hui 1,5 milliard de personnes qui diffuse en direct et arrive juste derrière YouTube Connect,
ben oui.
Qui lui-même va encore ouvrir à 1 milliard de personnes. Donc les masses de vidéos qui vont arriver, d'ailleurs, je signale simplement pour vos auditeurs, qu'en masse de vidéos produites ces dernières années sur ces plateformes, je crois, est égale à la somme des vidéos qui ont été produites depuis la création d'Internet, voire peut-être même avant.
Donc en une année à peine, on a produit autant de vidéos sur ce type de plateforme que depuis la création d'Internet.
À quelque chose près, dans les grandes dimensions. Et c'est quelque chose qui est amené, qui nous fait vraiment basculer dans un autre moment, dans un autre univers. C'est d'ailleurs ce qu'Internet fait depuis plusieurs années, c'est une sorte de tiroir infini de révolutions qui entraîne d'autres révolutions, et on est qu'au début de tout ça.
Michael Stora, de l'Observatoire des mondes numériques.
Oui. Oui, j'aimerais juste dire, au fond, lorsqu'il y a eu ce suicide ou d'autres cas, vous savez, ces deux jeunes, moi je pense à tous les téléspectateurs ou spectateurs de ces applications qui se retrouvent face à un traumatisme qui est visuel. Vous savez que maintenant, on reconnaît officiellement l'idée que l'image peut avoir un effet traumatique. On a vu pour le suicide que les gens de la RAM ont été pris en charge par des cellules de débriefing. Qu'en est-il de toutes ces personnes qui regardent des vidéos, qui se retrouvent sidérées, impuissantes, puisque comme vous le savez, le traumatisme, c'est l'impuissance et la passivité totale. Donc j'ai quand même envie de penser aussi que, à nouveau, il faudrait trouver une astuce pour pouvoir filtrer et véritablement aussi même prendre en compte la question de la violence des images.
Périscope ou Facebook Live, hein, change-t-il notre rapport à l'image et à l'information? Et c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. On se la pose sur France Inter, on se la pose aussi sur Périscope, puisque l'émission est retransmise en direct. En ce moment même, hashtag le débat de midi. Dans quelques instants, nous serons au téléphone avec Kéliane Martenon. Elle est responsable des internets, comme elle se présente, de Bruno Le Maire, qui nous dira comment les politiques aussi tentent, et parfois maladroitement, de s'approprier Périscope. Ce sera juste après ce groupe qui a existé avant les réseaux sociaux et qui, à mon avis, continuera d'exister après. Boubou, et il est 12h38 sur France Inter. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. I'm just talking about my generation. My generation, baby.
think what we are. My generation.
Est-il besoin de présenter The Who, Pete et sa bande qui, je le précise, sont encore en tournée en ce moment même, 50 ans après la sortie de ce titre My Generation. Ça, c'est de la longévité.
Thomas Chauvineau, le débat de midi sur France Inter.
Et quatre invités aujourd'hui pour évoquer Periscope, Facebook Live, ces applications qui permettent de diffuser des vidéos depuis n'importe quel smartphone. Thierry Valla, qui est avocat, Michael Stora, qui est psychologue, Tristan Mendes France, enseignant au CELSA, spécialiste des nouveaux usages du numérique, Rémi Buisine, qui est périscopeur sur les réseaux sociaux, justement, hashtag le débat de midi. Yann nous dit, on a le droit de filmer dans la rue si on ne filme personne en particulier, il en est de même pour les bâtiments. Thierry Valla, parce que vous êtes avocat, mais c'est pas tout à fait vrai, hein.
Non, c'est pas tout à fait vrai. Donc si on reconnaît la personne et si effectivement ça a été filmé à son insu, donc on tombe sous le coup du code pénal.
Voilà. Et il y a des bâtiments qu'on ne peut évidemment pas filmer. Jérémy nous dit, ces nouveaux médias ne rendent-ils pas obsolètes nos législations associées? Évidemment, on vient d'en parler. N'est-ce pas à elles de s'adapter urgemment? Fab qui nous dit, France Inter a supprimé la possibilité de commenter, de débattre sur son site. On comprend que l'info libre leur fasse peur, sachant que le débat et les commentaires, ce n'est pas de l'info, mais ce sont des débats et des commentaires. Et puis JS qui nous dit illusion du sans filtre sur Periscope, une prise de vue suppose toujours un angle de vue. Hashtag le débat de midi. Nous sommes aussi au téléphone avec Kéliane Martenon, bonjour.
Bonjour.
Vous vous occupez de la campagne internet de Bruno Le Maire et vous utilisez donc avec cette campagne Periscope ou Facebook Live, en tout cas cette possibilité qui vous est donnée de mettre en ligne des images, des vidéos. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui on ne peut pas faire sans?
C'est pas qu'on peut pas faire sans, mais c'est surtout que ça apporte quelque chose de nouveau. Nous, on a commencé à utiliser Periscope, c'était il y a un an, c'était en avril 2015. Et en fait, on avait vu une utilisation surtout pour filmer des meetings de Periscope, et on s'est dit que c'était pas ça qui était utile pour un politique. Et nous, on allait sur le créneau des questions-réponses, parce que c'était justement dans un souci de sincérité, en fait, du politique avec les gens avec qui il dialogue. Avant, Bruno Le Maire faisait ses questions-réponses par écrit, et souvent, même c'était lui qui tapait vraiment les réponses, les gens disaient, mais c'est peut-être pas lui qui répond, etc. Alors que là, depuis Periscope et depuis Facebook Live, maintenant, il répond en direct, en vidéo. Donc, en fait, on peut pas faire plus sincère et plus direct que ça. Donc, nous, on y voyait vraiment l'intérêt là-dessus, sur le côté sincère, surtout dans une période où les politiques perdent un peu de crédibilité.
Donc, vous appliquez la même recette que Periscope applique aux médias, finalement, les médias qui sont aussi critiqués sur cette histoire de sincérité.
Oui, c'est ça. Oui, c'est vraiment une recherche de sincérité. Mais après, à la différence d'un média, nous, c'est vrai qu'on filme pas des scènes, etc. Nous, vraiment, pour qu'on déclenche un Periscope, faut qu'il y ait une interaction. Il faut qu'on réponde aux gens. Sinon, le risque, c'est de tomber dans un Periscope de François Hollande, où en fait, on met les gens comme derrière une vitrine, et donc du coup, les gens après discutent entre eux, mais il n'y a pas d'échange entre la personne qui est filmée et les gens. S'il n'y a pas d'échange, je pense que le Periscope est raté. En tout cas, nous, c'est notre conception. On va déclencher des lives uniquement s'il y a un dialogue entre Bruno Le Maire et les gens.
Donc c'est un outil supplémentaire.
Oui, c'est un outil complètement supplémentaire, mais qui est devenu un peu central aussi dans notre campagne, parce que maintenant, on est les seuls à faire des questions-réponses tous les mois sur Facebook Live. Et il faut se rendre compte aussi qu'un Facebook Live, une heure de questions-réponses sur Facebook Live, c'est 16 000 personnes qui sont touchées d'un coup. Donc nous, c'est comme si on faisait en une heure 16 meetings partout en France, en fait. En général, on fait un meeting voilà, avec 1 000 personnes. Là, d'un coup, on a 16 000 personnes qui sont connectées, avec en plus la vidéo qui va rester sur sa page Facebook. Donc vraiment, en termes de visibilité, c'est quelque chose d'assez énorme et quelque chose de pour le coup.
Eh bien, merci Kylian Martenon d'avoir été au téléphone avec nous, responsable web donc de la campagne de Bruno Le Maire. Kylian Martenon évoquait François Hollande. C'est vrai que François Hollande, le 1er mars, a voulu utiliser Periscope. Il participait à une table ronde avec des salariés d'un groupe qui s'appelle Showroom Privé à Saint-Denis. Et puis ça a été un désastre de communication au fil des minutes de diffusion. Il y a eu des insultes puisqu'on peut écrire des commentaires sur Periscope, des blagues assez vaseuses du type « Ah, t'es venu en scooter, wesh wesh Hollande ». Donc chacun peut y aller aussi de son commentaire sans filtre, en gros, écrire tout ce qu'on veut. Est-ce que ça pose pas ça aussi, Michael Stora, un problème ?
Oui, alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire que la liberté d'expression n'existe que parce qu'il y a un cadre. Maintenant, il est évident qu'on prend le risque, finalement, de devoir être aussi un virtuose de l'improvisation. Je ne sais pas si Bruno Le Maire et lui-même, ce sont quand même des animaux politiques qui sont formés et qui sont habitués à avoir toujours une capacité, étonnamment, de rebondir. Le fait qu'un homme politique soit insulté, je dirais, Internet, nous a montré à quel point il y a une culture du commentaire. En France, nous sommes très très bons, surtout du côté du fait d'être des grands râleurs. Mais néanmoins, c'est intéressant. Pour le coup, moi, je trouve que c'est une vraie démocratisation de la parole de tout un chacun, avec ce fameux idéal qui était la démocratie participative. Internet ne fait que amplifier ce phénomène-là. Donc c'est vrai qu'il est évident que là, les politiques se retrouvent à devoir accepter de pouvoir, pourquoi pas, être remis en question avec des insultes peut-être un peu vaseuses.
Ah oui, ouais, mais ouais, t'es venu en scooter, je suis pas sûr que ce soit de la démocratie participative. Je
vois pas en quoi ça participe, excusez-moi, mais, que ce soit. Non, mais concrètement, quand vous regardez la grande majorité des vidéos sur Periscope, elles sont d'une médiocrité totale. Donc il y a quand même cette problématique qu'on a vu partout sur Internet. Tout le monde n'est pas excellent sur les youtubeurs, que quelques-uns sont bons. Donc c'est évident que peut-être il faudrait aussi en amont filtrer certains commentaires ou remonter. J'imagine que même dans vos propres tweets que vous recevez sur France Inter, il y en a qui sont que vous balayez d'un revers de la main parce qu'ils ne vous conviennent pas ou parce qu'ils sont peut-être un peu trop médiocres.
Oui, mais qui existent et qui sont là tout de même.
Eh oui.
Il y a un nouvel outil sur Periscope maintenant, c'est la modération participative. C'est-à-dire que si vous mettez un commentaire insultant, il y a certains mots qui sont détectés par Periscope et c'est suggéré à ceux qui regardent le live de décider si le commentaire est un abus ou si ça semble OK. Donc quelqu'un qui insulte peut par exemple se faire temporairement exclure de la conversation s'il a tenu des propos outranciers, etc. Le problème aussi, c'est que ça peut aider les trolls à virer des personnes qui donneraient des propos normaux. Par exemple, voilà, quelqu'un va commenter normalement et donner des propos qui ne plaît pas à la personne qui va devoir en juger, va dire que c'est pas bien et du coup la personne peut se retrouver, vu que c'est les personnes qui choisissent eux-mêmes si les propos sont à censurer ou non.
Alors certains youtubeurs, puisqu'on évoquait les youtubeurs à l'instant avec Michael Stora, sont devenus des youtubeurs professionnels, c'est-à-dire ils en vivent. Est-ce que vous vivez, vous, en tant que périscopeur ?
Pas du tout. Alors moi, si je voulais gagner de l'argent, je pense que mes images, je les garderais pour moi et je les vendrais derrière aux médias. Je veux dire, avec Periscope, aujourd'hui...
Vous avez été approché par des médias pour racheter vos images ?
Très régulièrement, mais pas via Periscope. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je fais aussi parfois des séquences de 30 secondes à une minute sur Twitter que je poste directement. Et là, ça arrive que des médias me contactent, soit pour reprendre avec crédit, soit pour me racheter les images. Donc après, ça dépend. Par contre, sur Periscope, comme des fois mes lives sont très longs, les médias doivent aller très vite, parce que justement, on est dans cette ère d'instantanéité et d'avoir justement les images le plus rapidement possible, bah, ça arrive des fois que mes images sont récupérées avant même que je puisse en donner l'accord ou non. Donc il y a un véritable sujet aussi parfois au droit d'auteur. Ça m'est déjà arrivé une fois d'allumer ma télévision sur une chaîne très connue et de voir mes images sans voir mon nom et sans en avoir donné l'autorisation.
Ça s'appelle du vol d'image, non ?
Exactement, exactement. Mais en tout cas, sur Periscope, on ne gagne pas d'argent et Periscope n'est pas encore rentable non plus pour ceux qui l'ont créé et pour Twitter. Donc, parce qu'il n'y a pas de pub. C'est-à-dire que par exemple sur YouTube, ce qui permet aux youtubeurs de gagner de l'argent, c'est parce qu'il y a des publicités en pré-stream. Mmh. Là, sur Periscope, vous allez dessus, le live s'allume automatiquement. Donc il n'y a pas de publicité, il n'y a pas encore de rentabilité. Twitter commence tout doucement à le faire en sponsorisant les périscopes via Twitter. Mais c'est quelque chose qui arrive tout doucement. Et les marques, certaines marques, des concessionnaires automobiles notamment, s'y sont mis il n'y a pas longtemps.
Quoi qu'il en soit, le monde politique s'intéresse de plus en plus à ces réseaux sociaux qui permettent de diffuser de la vidéo, hein, que ce soit Twitter, YouTube également le propose, ou Facebook. On l'a vu, Tristan Mendes France, là, très récemment aux États-Unis, l'utilisation hyper importante et constante de ces vidéos en direct, et notamment pendant les deux dernières conventions républicaines et démocrates.
Absolument. Notamment l'équipe Trump, hein, qui utilise de façon extensive à la fois Facebook Live et beaucoup de ses conseillers très proches, eux relayent sur d'autres plateformes du type Periscope. C'est un véritable phénomène. Trump relaye absolument toutes ses interventions, et toutes ces interventions sont relayées en direct à la fois sur Facebook et sur Periscope quand il y a certains de ses conseillers qui sont présents sur place. Alors ils ont une audience absolument hystérique là-bas, mais qui est évidemment liée au caractère, j'allais dire, croustillant du personnage. Évidemment, la pauvre Clinton derrière a moins d'audience sur ces types de plateformes-là, tout simplement parce qu'elle est moins polémique. Moi-même, il n'y a pas un discours quasiment que je rate, quitte à me lever tard le soir, de Trump sur Facebook Live ou sur Periscope. Je dois dire que là, pour ce qui est du filtre des commentaires, il y a absolument de tout. Il ne filtre absolument rien, hein, sur les périscopes de Trump aux États-Unis. Les messages sont aussi apologétiques que totalement insultants. Apparemment, ce qui les intéresse, c'est plutôt l'audience et pas forcément les propos disgracieux qui peuvent y être tenus. Aucun filtre là-bas. Je dois dire que moi-même, je regarde à peine les commentaires qui défilent d'ailleurs à une telle vitesse que ça devient d'ailleurs à peine lisible. C'est une véritable question qui se pose aussi. À trop d'avoir de commentaires en direct, après, il n'y en a vraiment plus qui sont tout à fait lisibles. Mais en tout cas, c'est un véritable phénomène. Tous les politiques s'en emparent. En France, ça commence aussi un peu.
Avec Bruno Le Maire et le malheureux accident pour François Hollande, en effet.
Oui, et je dois dire que c'est aussi une bonne façon de créer aussi, il y a un discours politique derrière du « je vous parle directement, je court-circuite les médias pour m'adresser à vous, citoyens ». Tout ça, c'est de la com', hein, de la propagande politique légitime, absolument légitime, mais c'était prévisible de longue date. C'est un outil supplémentaire pour les politiques pour faire de la propagande, mais par contre, c'est beaucoup plus utile pour les mouvements non structurés. Hein, aujourd'hui, il n'y a pas un mouvement social, il n'y a pas une revendication sociale dans la rue qui ne trouvera pas un relais sur Periscope ou Facebook Live. Rémi, lui, relaye évidemment quand il va dans des manifs, mais il croise aussi des collègues à lui, des gens, des citoyens lambda, qui eux-mêmes périscopent ces manifestations. Donc il n'y a plus aucune manifestation aujourd'hui, une revendication sociale dans la rue qui ne sera pas périscopée ou Facebook live. Et ça, là, on est loin des appareils politiques traditionnels.
Donc ça veut dire repenser aussi toute une stratégie de communication.
Alors pour les politiques, oui, et pour les citoyens s'en emparent déjà. On a vu ça pour une nuit debout, hein, tout simplement, mais bien au-delà, pour toute manifestation, les citoyens utilisent ça pour... Alors, il y a un discours un peu de défiance sur les médias, entre guillemets, dits traditionnels, un discours qui n'est pas toujours très rassurant non plus, mais c'est ça ouvre en tout cas, ça donne la voix, ça donne une visibilité à de nombreuses revendications qui peut-être n'auraient pas eu... une porte ouverte sur des grands médias.
Et il y a un intérêt assez évident des chaînes de télé, notamment aux États-Unis, mais j'imagine qu'en France aussi, on se pose la question de travailler avec les périscopeurs. Donc, CBS News a proposé un partenariat pour la couverture des présidentielles américaines, et Bloomberg va diffuser, donc avec Periscope, 3 émissions quotidiennes. À votre avis, pourquoi est-ce que les chaînes s'intéressent de si près à cette question-là, Rémi Buisine ?
Parce que c'est un nouvel outil, c'est-à-dire que moi, je considère pas que c'est une concurrence. Par exemple, moi, quand je vais faire mon live, je considère pas les concurrencer les médias, je considère que c'est un point de vue supplémentaire. C'est aussi aller chercher un public qui, pour certains, se sont détournés un peu des médias traditionnels, et donc, du coup, bah, c'est aller rechercher une audience qu'on a
les jeunes, hein, 77% des 18-24 ne s'intéressent plus qu'au numérique, et c'est par là qu'ils s'informent. Donc, c'est essentiellement les jeunes qu'on recherche.
Exactement,
sur Periscope.
Exactement, et je pense que c'est aussi les politiques ce qu'ils recherchent aussi, c'est d'aller chercher, d'aller parler à des personnes qu'ils ont perdues, donc politiques comme médias, des gens qui sont un peu détournés des médias traditionnels, télé, radio, etc., qui vont aller chercher l'information sur Facebook, sur Twitter, et maintenant Periscope, c'est un nouvel outil supplémentaire pour aller communiquer, donc les médias ont raison d'investir dessus. Si on parle même de Periscope d'actualité, des médias français, même Facebook Live, des médias français arrivent de plus en plus dessus pour faire des lives, c'est-à-dire que moi, par exemple, sur les couvertures des manifestations au travail, il y avait le Finpost, l'Obs, qui faisait des Facebook Live, France Télévisions également. Bref, il y a eu beaucoup de médias qui commencent à investir dessus et je considère que c'est véritablement un nouvel outil. Pour le spectateur, c'est un nouvel outil à regarder. Moi, je ne fais pas de concurrence, c'est ce qui permet plutôt d'avoir un point de vue supplémentaire. Plus il y a de personnes qui filent, plus ça permet d'avoir de points de vue supplémentaires. Et là où les journalistes ont vraiment un avenir, et ce ne sera pas simplement de donner l'information, c'est aussi de les confirmer. C'est-à-dire que moi, j'essaie d'en faire une approche la plus professionnelle possible, mais il faut aussi savoir qu'il y a aussi parfois des approches qui peuvent être malhonnêtes de par des militants, de par des personnes politiques, qui peuvent un peu biaiser l'image, c'est vrai, et c'est là où justement toutes ces images doivent avoir une analyse, prendre du recul, et là les journalistes ont un rôle très important pour l'analyser.
Alors c'est pas le militantisme ni le politique qui est le plus suivi sur Periscope, mais c'est ou le live streaming, hein, comme on peut le dire en anglais, c'est le sport, et on se souvient que notamment pendant la Coupe du Monde de football de Rio, 20 millions de personnes avaient pu suivre illégalement, sans payer de droits, les retransmissions de matchs grâce à Periscope. Il suffisait simplement de regarder quelqu'un qui avait payé son abonnement et qui filmait sa télévision et qui ensuite diffusait les images à ceux qui le souhaitaient, gratuitement. Donc ça aussi, ça pose un énorme problème de droit, Thierry Valla.
Ça pose énormément de problèmes de droit d'auteur et de droit de diffusion, puisque par exemple le football, on a eu il y a quelques semaines simplement les matchs de Ligue des Champions entre Chelsea et Paris Saint-Germain qui étaient diffusés, des matchs de boxe qui étaient en pay-per-view sur HBO, Piquillo contre Mayweather ont été aussi périscopés. C'était alors, mais on sait que également on a aujourd'hui, pour rebondir sur une des questions de nous le disions tout à l'heure, c'était on a tous les outils juridiques aujourd'hui pour contrer l'utilisation malveillante de Periscope. On a absolument tout. Et par exemple, la Ligue nationale de football professionnel va en justice et obtient gain de cause pour justement
à chaque fois.
En mars 2015, il y a eu, alors c'était pas Periscope, il venait juste de net, mais c'était également pour interrompre les diffusions de matchs de football. Ils ont obtenu l'interdiction. Donc, on imagine que si demain il y a d'autres utilisations avec des droits d'auteur bafoués, donc bien évidemment les ayants droit, Bein, Canal ou la Ligue, pour le football en tout cas, iraient au procès et donc obtiendraient gain de cause si les mises en demeure d'arrêt de la diffusion ne sont pas suivies.
Son fondateur, hein, le fondateur de Periscope, qui s'appelle Kevin Baycourt, dit que c'est comme une sorte de machine proche de la télétransportation. On voit l'autre bout du monde par les yeux d'un autre. Je voulais vous poser la question au psychologue que vous êtes, Michael Stora, une phrase comme celle-là, un petit peu grandiloquente autour de ce que serait finalement juste de la diffusion d'images, quoi.
Oui, étonnamment, j'ai envie de vous dire, ça fait longtemps que ça existe, ça s'appelle la télévision. Au fond, bon, rien de nouveau, sauf que là, on a démocratisé l'idée que, comme ça a été évoqué, toute personne devient, au fond, spectateur, metteur en scène, producteur, diffuseur, pas vraiment diffuseur. Donc c'est vrai que j'ai quand même envie de dire que Rémi Buzyn, lorsqu'il dit qu'il n'est pas en concurrence avec les médias dits traditionnels, je pense que profondément les médias traditionnels ont très peur néanmoins de cette apparition, parce que on voit à quel point il y a quand même de la perte d'audience. On l'a vu avec la question du football, mais c'est évident que l'idée de voir le monde à travers le regard d'un autre, j'ai envie de vous dire que c'est quand même la question du journalisme qui se joue. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se repose comme questionnement essentiel sur qu'est-ce que ça veut dire informer.
Il y a beaucoup de cellules qui existent chez nos confrères à la télévision qui réfléchissent sur l'utilisation qu'on peut faire évidemment de ces plateformes de sur les réseaux sociaux. Ben merci à tous les quatre d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Sur franceinter.fr, vous retrouverez les biographies et les bibliographies de tous nos invités. Et puis un petit clin d'œil au téléphone sonne. Ce soir, le téléphone sonne sera aussi sur cette thématique. Réseaux sociaux, Pokémon Go. Tiens, on n'a pas parlé de Pokémon Go. On aurait pu. Arnaud Bousquet au téléphone sonne interrogera notre rapport au virtuel. Ce sera donc tout à l'heure à 19h20. Nous, on se retrouve demain, un an jour pour jour après la réouverture d'une procédure judiciaire sur la mort de Robert Boulin. Saura-t-on un jour la vérité sur le décès mystérieux de ce ministre? On attend déjà vos réactions sur franceinter.fr.